premier livre de Samuel, nous allons lire le chapitre 30. Nous allons lire le chapitre 30. Cette année, je parle beaucoup sur la destinée. Beaucoup alors. Et je pense que les gens sont arrivés à m'identifier avec ce message-là. Et j'ai amené une série de DVD sur la délivrance de la destinée. C'est 5 CD que j'aimerais que chacun puisse en approprier. C'est juste, je pense, 25 € pour les 5 CD. Que chacun s'en approprie. Parce que cette année, c'est l'année où on doit entrer dans notre destinée. Que quelqu'un dise, je dois entrer dans ma destinée cette année. Parce que je suis fatigué à tourner en rond. Combien de gens sont fatigués à tourner en rond? Allô? Combien de gens sont fatigués de tourner en rond, les échecs, les réussites, les échecs, les réussites? Ce temps est fini. Amen. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Ziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Jisrel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Hallelujah. Et David s'est mis en marche, et lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu? D'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les midi des Kéréciens et sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Ziklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays des Judas. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Amen. Amen. David était un des rois les plus puissants que l'histoire n'a jamais connu. David était l'homme, la Bible dit, qui avait la faveur auprès de Dieu. C'était l'homme dont Dieu avait aimé. Parce que David aimait Dieu aussi. C'est quelqu'un qui cherchait la face de Dieu. C'est quelqu'un qui avait une passion pour Dieu. C'était l'homme de Dieu. Mais un malheur est arrivé à David. La Bible dit que David, pendant qu'il était en train de marcher à accomplir sa grande destinée, il a trouvé des problèmes auprès du roi Saül. Et ce problème, c'est que c'était un problème parce qu'il avait un grand appel sur sa vie. Alors l'ennemi utilisait le roi Saül pour handicaper son appel. Et David en avait souffert. Il avait été rejeté. Il avait été chassé comme un chien. Mais dans tout cela, la main de l'Éternel était sur sa vie. Et comme il marchait dans sa destinée, la main de l'Éternel ne l'avait jamais abandonné. Alors David, pendant ce temps, il a rassemblé, après avoir perdu tous ses biens, il a rassemblé les quelques peu de gens, les quelques femmes, les quelques enfants, et ceux qui étaient prêts à risquer leur vie pour leur leader. Ils se sont encore consolidés. Et lorsqu'ils se sont consolidés, ils ont décidé de mener leur vie. Et la Bible nous dit, David devenait maintenant un mercenaire qui était à la disposition de rois qui se battaient. Il utilisait la seule chose que Dieu lui avait donnée, la puissance stratégique pour gagner. Que quelqu'un dise la puissance stratégique pour gagner. Lorsque la main de Dieu est sur ta vie, il y a quelque chose qu'il met en toi qui doit te donner la victoire partout où tu vas. Lorsque la main de Dieu est sur toi, il y a quelque chose que personne ne peut effacer dans ta vie qui va briller et qui va te donner encore ce que tu as perdu. Parce que Dieu, il dépose en nous quelque chose qui constitue notre arme de victoire. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de faire le travail, de se battre, il a rencontré que les Amalécites sont venus, ils ont pillé son camp. Ils ont pris tout ce qu'il avait. Ses femmes, ses enfants, les enfants de ses militaires. Tout ce que David avait, il avait tout perdu. L'ennemi est venu dans le camp. Il a volé tout ce qu'il avait. Ce qu'il avait obtenu par la faveur de Dieu. Ce qu'il avait obtenu par sa main victorieuse de combat. En un rien de temps, David avait tout perdu. Mon frère et ma soeur, des fois vous vous retrouvez à un endroit où vous avez amassé. Vous avez reçu les bonnes choses de la part de Dieu. Peut-être votre santé. Vous avez marché pendant des années en bonne santé. Vous avez marché pendant des années avec beaucoup d'argent, des voitures, des maisons. Vous avez marché pendant beaucoup d'années avec une famille qui est unie, des enfants en bonne santé, des enfants qui marchent bien. Vous avez marché pendant beaucoup d'années avec la joie dans votre cœur. Et d'un coup, l'ennemi se manifeste. Et quand il se manifeste, il détruit tout ce que vous avez. Vous savez, mon frère et ma soeur, la Bible nous dit, les bonnes choses viennent de Dieu. Et Dieu est un Dieu de bénédiction. Lorsque vous êtes appelé de Dieu, vous êtes appelé enfant de Dieu. Dieu libère ses bénédictions dans votre vie. La Bible dit, nous sommes la semence d'Abraham. Cela veut dire que toutes les bénédictions d'Abraham sont nos bénédictions. Cela veut dire que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions célestes. Dieu est un Dieu qui donne dans notre vie. C'est un Dieu qui dépose les bonnes choses dans notre vie. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un ennemi. Chaque fois que Dieu libère les bonnes choses dans votre vie, l'ennemi s'élève pour détruire les bonnes choses de Dieu dans notre vie. Non, ce n'est pas Dieu qui a détruit ce qui est détruit dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a repris l'argent que tu avais. Ce n'est pas Dieu qui a implanté la maladie dans ton corps pour détruire ta bonne santé. Ce n'est pas Dieu qui a mis la dépression dans votre vie. C'est l'ennemi qui s'est manifesté pour pouvoir créer les mauvaises choses dans ta vie. Chacun de nous traverse des moments où vous rendez compte que vous avez perdu toutes les bonnes choses que Dieu vous a données. Peut-être c'est une chose, c'est deux choses, quatre choses. Peu importe, il y a des moments où vous retrouvez à un endroit où vous avez perdu, où vous n'avez plus rien, où vous êtes déprimé, où vous demandez qu'est-ce que demain représente pour moi. Il y a des fois où vous retrouvez à un endroit, votre vie devient un cycle d'échecs, un cycle où vous essayez de prospérer. Mais les problèmes ne font que s'accroître. Vous essayez de réussir, d'aller de l'avant, mais il semble comme s'il y a tout un système qui te rend marche arrière. Je veux que vous soyez encouragés aujourd'hui. Le roi David s'était trouvé à cet endroit comme toi aujourd'hui. Mais la Bible dit que lorsque David est arrivé, il a rencontré que tout a été pris. Même les villages brûlés, lui et ses hommes ont commencé à pleurer. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient plus d'armes. Vous savez, des fois il est bon de pleurer. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que David pleurait? C'est parce que jusque-là, David pensait qu'il était invincible. Il pensait qu'il avait les ressources pour résoudre son problème. Voilà pourquoi plus il pleurait, plus il s'est dépouillé de ses propres capacités pour résoudre ses problèmes. Plus il pleurait, plus il s'est dépouillé de toutes ses énergies pour ne compter que sur Dieu. Pour ne compter que sur le seul, celui qui était capable de les tirer de ses problèmes. La Bible dit qu'il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Et vous savez, quand il a rencontré des problèmes, il avait tout perdu. Vous savez, lorsque vous êtes dans des problèmes, même les gens sur lesquels vous comptiez, qui pouvaient vous aider, ce sont les mêmes gens qui vont encore devenir un problème pour votre vie. Ce sont les mêmes gens qui en ce moment vont commencer à se moquer de vous. Dans le cas de David, les mêmes gens cherchaient à les tuer maintenant. Cherchaient à les lapider. Parce qu'ils se disaient, cet homme nous a amenés dans cette aventure. Voilà, maintenant nous avons perdu tout ce que nous avons à cause de cet homme. Pratiquement, David, dans ses problèmes, il s'est retrouvé seul. Seul sans savoir où aller. Mais, au milieu de toutes ces difficultés, où tout le monde avait abandonné David, la Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu. Il s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu. Il n'a plus compté sur un homme. Il n'a plus regardé sa force physique. Il n'a plus regardé ses exploits de guerrier. Mais il s'est tourné vers l'Éternel son Dieu. Et la Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur son Dieu. La Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Laissez-moi vous dire, mon frère et ma soeur, vous n'avez personne d'autre pour vous sortir de votre problème. Vous n'avez aucun médecin qui peut vous aider. Vous n'avez aucun banquier qui peut vous aider. Vous n'avez aucun frère qui peut vous aider lorsque vous êtes dans les difficultés. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous avez des problèmes sérieux. Mais si vous connaissez Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui regarde vers l'Éternel, son Dieu. Les hommes peuvent vous rejeter. Les solutions peuvent être impossibles pour votre problème. Mais lorsque vous connaissez Dieu, vous avez la raison de vous réveiller et vous de réjouir. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous pouvons aller au devant. Les problèmes peuvent vous envahir. Les ennemis peuvent vous envahir. Mais lorsque vous connaissez votre Dieu, vous êtes la majorité. Aucun problème ne peut vous être passé parce que vous avez un Dieu vivant. Laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est capable de retourner tout ce que l'ennemi vous a volé. Nous servons un Dieu qui est capable de restituer tout ce que vous avez perdu. Je déclare sur votre vie. L'année 2012, c'est l'année de récupération de tout ce que l'ennemi avait volé. C'est l'année de récupération de tout ce que vous avez perdu à cause de votre faute, à cause de vos péchés, à cause des sorciers, à cause des ennemis de la famille. Mais le temps est arrivé où ton Dieu va s'élever pour que tu puisses récupérer tout ce que tu avais perdu afin que tu puisses entrer dans ta destinée avec tout ce qui t'appartient. Nous allons rendre gloire au Seigneur. Il est vivant. Gloire au Seigneur Jésus. Avec Dieu, vous pouvez récupérer tout ce que vous avez perdu. La Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu. Mon frère et ma soeur, nous vivons un temps où vous devez connaître votre Dieu. Vous devez connaître Dieu. Parce que vous n'avez personne d'autre qui peut vous aider. Vous n'avez rien d'autre qui peut vous aider. Nous vivons un temps où si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes voué à l'échec dans tout ce que vous allez faire. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous vivez une vie qui est très dangereuse. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes à la merci du diable. Vous êtes à la merci des problèmes. Si vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez, vous savez, le problème, c'est que même beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Ils pensent qu'ils ont un Dieu qui est comme le Bouddha, un Dieu comme les musulmans, un Dieu comme ceci ou cela. Vous savez, un jour, j'ai prêché à Bangkok, en Thaïlande. Et pendant la réunion comme ça, on a amené les bouddhistes. Et parmi ces bouddhistes, il y avait une femme qui était paralysée. Elle avait fait un accident de voiture, elle n'arrivait pas à marcher. Alors je me suis dit, comment est-ce que je vais leur dire que le Dieu que je sers, ce n'est pas leur Dieu. Parce que vous savez, le monde va vous dire, vous savez, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous tous, nous servons le même Dieu. Mensonge! Le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu de notre Père Jésus, de Jésus-Christ. Le Dieu Bouddha, il n'est pas au même pied avec Jéhovah. Le Dieu de ce monde, il n'est pas au même pied avec Jéhovah, mon Dieu. Et quand vous passez partout en Bangkok, vous trouvez des statues où les gens doivent adorer pour entrer dans un hôtel, ainsi de suite. Alors quand vous les appelez à la réunion, ils disent, bon, c'est un Dieu aussi. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la communalité. Vous ne pouvez pas mettre notre Dieu là-bas, et les dieux des musulmans là-bas, et Bouddha là-bas, et dire vous adorez les dieux. Il y a une différence. Amen. J'ai dit, il y a une différence. Amen. Et donc, j'ai dit à ces gens, j'ai dit, je viens vous prêcher aujourd'hui un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Amen. Un Dieu qui est capable de faire les impossibilités. Amen. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que Bouddha peut faire pour vous? Ils n'avaient pas de réponse. Alors je dis, je vais vous montrer ce que mon Dieu peut faire. Et l'Esprit de Dieu est venu en moi. Amen. J'ai dit aux gens, amenez la femme là-bas qui est paralysée. Ils ont amené la femme. J'ai dit, je vais appeler le nom de Bouddha pour voir s'il va guérir la femme ici. J'ai appelé le nom de Bouddha 3 fois. Ils me regardaient tous. Et rien ne s'est passé. Après, j'ai dit, maintenant, je vais appeler le nom de mon Dieu. Celui que j'ai amené ici. Le Père de Jésus-Christ. Le Dieu vivant. Jéhovah. Qui transforme les situations. Et j'ai appelé le nom de Dieu. J'ai appelé le nom de Jésus. Lorsque j'ai touché cette femme, La puissance de Dieu est venue sur elle. Elle s'est levée en présence. Ils ont connu que nous avons un Dieu. Alléluia. Nous allons louer ce Dieu qui est vivant. C'est le Dieu que vous servez. C'est le Dieu qui est capable de récupérer tout ce que vous avez perdu. Je m'en fous qu'est-ce que vous avez perdu. Je m'en fous où est-ce que vous êtes en ce moment. Je déclare que ce Dieu-là qui a délivré David, c'est votre Dieu. Aujourd'hui, il est capable de récupérer tout ce que vous avez perdu. Louez ce Dieu, mon frère et ma sœur. La Bible a dit, David s'est encouragé dans le Seigneur, son Dieu. Il ne s'est pas encouragé avec les... Vous savez, parfois, quand nous avons des problèmes, on cherche les gens qui vont nous consoler. On cherche les gens qui vont nous dire une bonne parole. Nous cherchons des amis qui nous évitent. Nous cherchons des parents qui se moquent de nous quand nous avons des problèmes. Nous cherchons les médecins. Nous perdons beaucoup d'argent. J'ai pas de problème avec les médecins. Mais j'ai tout simplement remarqué que j'ai un médecin qui est au-delà de tous les médecins. Nous cherchons des solutions en essayant de tromper les gens. Alors que Dieu, il est là pour vous. Il vous aime. Il est de votre côté. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si nous avons Dieu, qu'est-ce qui sera impossible? La Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur. Après s'être encouragé dans le Seigneur, il a demandé au sacrificateur de lui donner l'effort. Qu'est-ce que ça représente? David est allé en présence de son Dieu. Il est allé adorer. Il est allé se connecter à Dieu dans la prière. Vous savez, mon frère et ma soeur, votre vie de connexion à Dieu, c'est ce qui vous donne les devants sur vos ennemis. Votre vie de passion pour Dieu. Lorsque vous êtes un homme, vous êtes une femme qui aime la présence de Dieu, qui aime chercher la face de Dieu, qui aime se perdre dans la présence de Dieu, qui cherche à rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu pour atteindre ce Dieu vivant dans l'intimité de la prière, dans l'intimité de l'adoration, dans l'intimité de la louange. C'est à ce moment-là que ce Dieu-là commence à vous donner des stratégies pour la victoire. Que quelqu'un dise la stratégie de la victoire. Parce que nous avons besoin d'une stratégie pour vivre la victoire. Nous avons besoin de la direction. Et vous n'allez pas recevoir cette direction si vous n'êtes pas une femme, un homme qui est passionné de Jésus, un homme qui est passionné de Dieu, un homme qui cherche la présence de Dieu, un homme qui cherche à connaître ce Dieu, un homme qui cherche à aimer ce Dieu de tout votre cœur, où vous pouvez abandonner tout ce qui vous empêche d'atteindre ce Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous attire dans ce monde et qui nous empêche d'avoir cette passion pour Dieu. Nous sommes attirés par beaucoup de choses, attirés par les choses de ce monde, attirés par les habits, attirés par les plaisirs de ce monde, attirés par les choses qui nous défient, les choses qui nous souillent. Il est difficile d'avoir une intimité avec Dieu. Lorsque nous sommes attirés par beaucoup de choses. Nous sommes attirés, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Vous savez, j'avais un ami. Et cet ami-là, chaque fois qu'on se voyait, il avait toujours des choses à me proposer. Si ce n'est pas les choses des affaires. C'est mon cher, vous savez, j'ai rencontré un site dans l'internet là. On dit si vous donnez tel argent, vous allez avoir ceci, vous allez avoir ceci. Pendant 2-3 heures de temps, on ne parle que de ça. Prochainement, je viens à lui. Vous savez, mon cher, les costumes que vous portez là, comme le Teddy Jack, ce n'est pas bon. Maintenant, il y a des costumes là qui viennent de l'Europe là. Là, c'est très bon. Quand vous portez ça, pendant 2 heures de temps, on ne parle que des habits. La troisième fois, je viens, mon cher, vous savez, la politique en Afrique là-bas, en Côte d'Ivoire, au Congo, 2 heures de temps, on parle de ça. Un jour, Dieu me dit, ça, ce n'est pas un ami. Si ce n'est pas quelqu'un qui va vous amener en sa présence. quelqu'un qui va vous encourager dans les choses de Dieu. Voilà des amis, des relations qu'il ne faut plus entretenir. Alors, certains parmi vous, quand vous rencontrez, de quoi vous parlez? De quoi? Vous parlez de la sœur telle, du frère tel, au lieu de vous mettre en présence de Dieu. Là, pourquoi quand vous rencontrez, vous êtes enfants de Dieu, et merci pour cette rencontre, nous allons aller devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa présence, vous recevez les stratégies pour la victoire. En sa présence, vous recevez la direction pour aller de l'avant. La Bible dit, David, il a demandé au Seigneur. Seigneur, après l'avoir adoré, après l'avoir loué, vous savez, quand vous venez devant la présence de Dieu, vous devez oublier votre problème. David avait tout perdu, mais quand il est allé devant la présence de Dieu, il n'a pas commencé à parler à Dieu de son problème. Il est allé tout simplement l'adorer. Il est allé tout simplement devant sa présence pour se réjouir de la présence de son Dieu, malgré ses difficultés, malgré ses problèmes. Malgré les défis qu'il traversait, il a eu le courage d'aller vers son Dieu, de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de chercher des adorateurs, des gens qui aiment sa présence, des gens qui, malgré ce qu'il traverse, la présence de Dieu est plus importante que tout ce que vous traversez. La gloire de Dieu est plus importante que tout ce que vous traversez. Vous savez, dans ma vie, il y a quelques temps, j'ai passé dans des moments extrêmement difficiles. Et dans ces moments difficiles, j'avais perdu beaucoup de choses dans ma vie. Et je me retrouvais traqué comme David. Et je ne savais pas où aller, quoi faire. J'étais en train de perdre mon ministère. J'étais en train de perdre ma famille. J'étais en train de perdre tout ce que j'ai gagné par la sueur de mon front. Exactement comme David s'est trouvé. Mais une voix de l'intérieur me disait, entre dans la chambre profonde, viens mon fils, oublie tout ce que tu vois là-bas, viens dans ma présence, j'ai quelque chose qui est mieux que tout ce que tu es en train de perdre, c'est ma présence, j'ai quelque chose de mieux que tout ce que tu es en train de chercher, c'est ma présence, car à ma présence, tu vas rentrer et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu et je te donnerai deux fois plus que ce que tu as perdu. Voilà le Dieu que je sers. David, il a commencé à adorer son Dieu. Vous savez, David est connu comme un vrai adorateur de Dieu. Il est connu comme quelqu'un, lorsqu'il adorait Dieu, même quand il jouait, la présence de Dieu s'est manifestée. Mon frère et ma soeur, je vais te défier aujourd'hui. Si tu veux voir la main de Dieu dans 2012, aime la présence de Dieu. Aime l'intimité avec Dieu. Cherche l'intimité avec Jésus. Pas l'intimité avec les boyfriends, les girlfriends. Ça, c'est pas l'intimité. C'est la destruction. L'intimité avec Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'intimité qui peut vous remplir comme l'intimité avec Jésus. Vous pouvez penser qu'en étant en présence de votre amant, de votre ami, vous sentez l'intimité. Comme vous le savez, c'est juste pour quelques minutes. Quand vous avez fini, vous avez encore besoin de quelque chose d'autre. Mais l'intimité de Dieu vous satisfera tout le temps. Vous sentirez sa présence. Lorsque vous marchez, vous sentez qu'il y a une main qui est sur votre vie. Lorsque vous marchez, vous sentez que vous êtes avec quelqu'un. Vous sentez que vous êtes satisfait malgré les problèmes. L'intimité avec Jésus. Et lorsque David est entré dans l'intimité avec Jésus, il a demandé, après maintenant la présence de Dieu, c'est Dieu qui l'a inspiré à demander la stratégie maintenant pour la victoire. Il a dit, Seigneur, je suis content de ta présence. Mes larmes sont séchées en ta présence. Je retrouve ma joie en ta présence. Maintenant, Dois-je réellement poursuivre mes ennemis? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà ce que David voulait dire. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis déjà satisfait. Malgré le fait que j'ai perdu tout, en ta présence, je me sens satisfait. En ta présence, je me sens récupéré. Il a demandé à Dieu la stratégie. Seigneur, dois-je le poursuivre? Et le Seigneur lui a répondu. Il lui a donné la stratégie en trois phases. Il a dit, voilà, parce que maintenant tu es équipé. Alors, maintenant tu es équipé par mon esprit. Parce que tu étais en ma présence. Parce que tu as reçu la force de ma part. Maintenant, tu peux poursuivre. Maintenant, tu peux poursuivre. Pourquoi? Parce que tu viens de ma présence. Parfois, nous essayons de nous battre des combats sans équipement. Ouais, tu sais, la Bible dit que nous avons l'autorité. Quelle autorité? Sans présence de Dieu. C'est quand vous allez dans un combat, on est en train d'utiliser des canons et vous avez un petit revolver. Vous dites, je vais aller me battre aussi. Et ça va faire comme l'éclat d'un petit jouet, c'est tout. Et l'ennemi va vous dévorer. Et la Bible dit que Dieu lui a dit, la stratégie qu'il lui a donnée, il lui a dit de poursuivre ses ennemis. Que quelqu'un dise poursuivre. Lorsque nous venons de la présence de Dieu, nous avons une force en nous qui nous donne l'autorité, l'assurance que le combat que nous allons mener, c'est un combat qui va nous amener à la victoire. Parce que nous venons de la présence de Dieu. Parce que nous avons connu ce Dieu-là qui est avec nous. Parce que nous avons reçu de ce Dieu-là que nous avons adoré. Il lui a dit, poursuis. Qu'est-ce que cela veut dire? Il lui a dit d'engager dans un combat spirituel pour ses possessions. Nous vivons dans un temps où vous devez savoir combattre pour vos biens. Vous devez savoir combattre pour récupérer ce que l'ennemi vous a volé. La Bible nous dit que nous combattons les bons combats. Cela veut dire que nous combattons dans la victoire, mais pas dans la défaite. Un enfant de Dieu, lorsqu'il engage le combat, c'est un combat certain. Il a dit, vas-y, engage dans le combat spirituel. Cela veut dire, va, poursuis les voleurs. Poursuis l'ennemi. Vous savez, il n'y a pas de solution. Lorsque vous êtes dans des problèmes, vous devez identifier la source de votre problème. Vous devez identifier qui est à l'origine de votre problème. Des fois, lorsque nous avons des problèmes, nous essayons de donner beaucoup de raisons. Ouais, c'est ma soeur qui me crée des problèmes. Si je n'étais pas marié à telle femme, je n'aurais pas de problème. Si je n'étais pas dans telle église, je n'aurais pas de problème. Non, tout cela, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le diable. Le voleur. Celui qui est venu pour dérober, égorger et tuer, voler. La Bible dit, poursuis tes ennemis. Je déclare aujourd'hui que Dieu libère la puissance dans sa vie. Ta vie est remplie de la puissance pour poursuivre tes ennemis et les désarmer. Il a donné la stratégie. Poursuis tes ennemis. C'est-à-dire engage dans un combat spirituel. Engage à poursuivre l'ennemi de ta vie. Et cet ennemi de ta vie n'a pas de choix mais de libérer ce qu'il a volé. La Bible nous dit que David, il a commencé à poursuivre ses ennemis. Il était équipé pour poursuivre ses ennemis. savez, nous vivons dans un monde où si vous ne savez pas comment faire le combat spirituel, vous aurez des problèmes très sérieux. Parce que les temps que nous vivons, l'ennemi, le diable, a libéré le plus féroce de ses démons pour voler les biens qu'il a déposés dans les enfants de Dieu, pour handicaper la destinée des enfants de Dieu. Alors vous devez vous lever, utiliser la puissance qu'il vous a donnée pour arrêter tous vos ennemis, pour les désarmer, de prendre tout ce qu'ils ont volé de votre vie. Ça fait quelque temps, je suis en prière avec un groupe de gens. Ils sont en train de chercher la face du Seigneur. Le Seigneur nous a inspirés à commencer à aller à la fondation de nos vies. Commencer à examiner qu'est-ce qui est sur la fondation de nos vies. Vous savez, mon frère et ma soeur, le plus grand problème que vous avez dans la vie émane de l'état de votre fondation de vie. Alors, 80% des problèmes que les gens rencontrent, ce sont des problèmes de fondation. Les gens de combat que vous menez sera fort ou faible selon l'état de la fondation sur laquelle est bâtie votre vie. Amen. Beaucoup de gens, lorsqu'ils rêvent, ils voient toujours les mêmes personnes dans leurs rêves. Et quand ils les voient, ils se réveillent le matin, tout ce qu'ils essaient d'entreprendre échoue. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez un ennemi qui est dans votre fondation. Pendant qu'on était en train de prier, une sœur est venue me dire, « Mais dit Bishop, ça fait des années, chaque fois que je vais faire quelque chose, si seulement je rêve ma tante, qui est déjà décédée, la chose là échoue. J'ai 39 ans d'âge, je ne suis pas marié. J'ai une belle femme, j'ai étudié, je suis chrétienne. Quand un homme veut m'épouser, on parle de tout. On est au point de donner la dot. Il suffit que je rêve ma tante là. Le lendemain, le monsieur vient annuler les fiançailles. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la fondation de sa vie, il y a un ennemi qui s'est levé pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais avoir le bonheur. Voilà pourquoi vous devez chercher qui est votre ennemi. Qu'est-ce qui donne la force à votre ennemi? Qu'est-ce qui lui donne la force? Votre fondation? Votre style de vie? Quand vous vivez sans la crainte de l'Éternel, quand vous vivez comme si la vie était tout simplement un amusement, votre ennemi aura la force pour vous détrôner. Non, vous ne pouvez pas vous battre contre le diable pendant que vous êtes encore dans la fornication. Ce n'est pas possible. Vous pouvez prier, l'ennemi a la force de vous vaincre. Il est temps que l'Église commence à comprendre que nous avons un ennemi et que c'est notre comportement qui peut donner la force à notre ennemi. Voilà pourquoi nous devons enlever tout ce qui peut donner la force à notre ennemi. Vous savez, lorsque Jésus est venu, il a dit, l'ennemi n'a rien à moi. Voilà pourquoi il ne peut pas me vaincre. Est-ce que l'ennemi a quelque chose de lui dans ta vie? Alors ta stratégie ne va pas marcher. Vous voulez vous battre contre l'ennemi et vous marchez dans le manque de pardon. Il y a tel frère à qui vous ne parlez pas. Telle sœur à qui vous ne parlez pas. Et vous venez à l'église, vous faites semblant. Qui est-ce que vous êtes en train de tromper? L'ennemi vous connaît. Vous allez prier, vous allez réciter toutes les prières de puissance. Il connaît votre cœur. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir. Quand voulez-vous, vous allez vous battre contre l'ennemi pendant que votre vie est remplie de péchés. Comment est-ce que vous allez vous battre avec l'ennemi? Quelle stratégie va marcher? Vous voulez vous battre contre l'ennemi? Vous êtes les premiers dans l'église. Vous ne donnez même pas votre dîme. Comment vous allez vous battre? Comment vous allez vous battre? Quelle stratégie vous allez utiliser? Alors que vous venez à l'église, le travail de Dieu exige à ce que les enfants de Dieu puissent obéir à Dieu. Que quelqu'un dise obéissance.
Obéissance.
L'arme la plus puissante, c'est que je dirais l'insecticide contre l'ennemi, c'est la sainteté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la marche qui honore Dieu. Lorsque vous commencez à marcher dans une marche qui honore Dieu, l'ennemi ne peut plus vous toucher. Vous devenez très chaud pour l'ennemi de vous toucher. Il ne peut même pas s'approcher de vous. C'est là que vous pouvez vous lever pour poursuivre l'ennemi. Parce que vous êtes dépouillé de toutes ces œuvres mortes, de toutes ces œuvres de ténèbres. Vous avez abandonné la fornication. Vous avez abandonné l'adultère. Vous avez abandonné les mensonges. Vous avez abandonné les systèmes de voler Dieu. Vous allez abandonner, enlever l'amertume. Vous avez enlevé le manque de pardon dans votre vie. Le sang de Jésus vous a purifié. En ce moment, vous pouvez vous mettre debout et dire, écoutez Seigneur, je suis prêt à la victoire. Je suis prêt à la victoire. Parce que l'ennemi n'a rien de lui en moi. Alors je peux marcher dans la victoire. Il est temps qu'on cesse de tromper les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec le feu et essayer à éteindre le feu. Alors, il est temps qu'on commence à dire la vérité aux enfants de Dieu. L'église est tellement souillée qu'elle ne peut plus nous battre. Nous sommes faibles devant l'ennemi. On a dit aux gens, vous savez, il y a un ministère qui s'est élevé là-bas. Un ministère de combat spirituel. Nous allons combattre, combattre. Et vous passez toute la nuit en train de combattre, votre situation n'a jamais changé. Il y a tel pasteur qui est venu, on dit qu'il a la puissance. Tout le monde va là-bas. 3 mois après, vous avez les mêmes problèmes. Ce n'est pas le problème qui est. Ce n'est pas le passé qui est un problème. C'est vous qui êtes un problème. Parce que votre vie est souillée. Votre vie est remplie de péchés. Et vous n'êtes pas prêt à changer. Quand on vous dit qu'ils vont changer votre vie, non, ces gens-là sont en train de juger les autres. Ils n'ont pas d'amour. Moi, je vais chercher quelque part. Voilà pourquoi vous avez des problèmes tout le temps. Parce que vous êtes incorrigible. L'ennemi aime les gens comme ça. Parce qu'il sait que tu ne sauras jamais les déloger de ta vie. Pour autant que tu marches dans ses voies. Vous savez, vous ne pouvez pas utiliser les stratégies de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Vous devez changer de stratégie. Ce que David a fait, il est allé se purifier. Tu vois, il avait pleuré. Il a eu de l'amertume. Parce que ses frères, ses amis de combat l'ont abandonné. Ils ont cherché à les tuer. Vous pouvez être certain que dans son cœur, il y a eu l'amertume. Dans son cœur, il s'est dit, voilà les amis, maintenant il a un manque de pardon. Mais il s'est dit, je ne peux pas aller combattre avec cet état d'âme. Je ne peux pas. Si j'essaie d'aller, j'essaierai le petit déjeuner, j'essaierai le dîner pour le diable. Alléluia. Voilà pourquoi la vraie repentance est nécessaire pour aller combattre l'ennemi. Qu'est-ce que c'est la vraie repentance? La vraie repentance, ce n'est pas lorsque vous venez seulement, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, c'est fini. La repentance, cela veut dire que vous changez de direction. Ce que vous buviez, vous ne buvez plus. Si vous buviez les dix mille, à partir de ce moment-là, vous buvez maintenant les toniques.
Amen.
C'est ça la repentance. Vous étiez en train de vivre avec quelqu'un qui n'est pas votre mari, votre femme légalement. Vous quittez cette maison, vous rentrez chez vos parents. Maintenant, vous commencez à prier.
Amen.
Vous ne payez pas votre dîme, vous devez venir demander pardon au pasteur. Le lendemain, vous amenez votre dîme, vous commencez une nouvelle vie. Voilà ce qu'on appelle la repentance. Alors, non, nous avons perdu beaucoup de combats dans le corps du Christ, inutilement. Alors que nous avons un Dieu qui nous donne les stratégies de la victoire. Remarquez que David, avant de poursuivre, il est allé d'abord devant la présence de Dieu pour se purifier, pour se repentir, pour quitter là-bas où il peut dire l'ennemi n'a rien à moi. Alors la Bible dit, il s'est engagé dans un combat spirituel. Il a poursuivi ses ennemis parce qu'il était équipé maintenant avec une puissance que l'ennemi ne pouvait pas arrêter. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu es équipé d'une puissance que l'ennemi ne peut pas arrêter. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as le nom de Jésus sur tes lèvres. Tu as le sang de Jésus qui couvre ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Lorsque tu ouvres ta bouche, l'ennemi tremble parce que tu marches dans la sainteté. Donnons gloire au Seigneur ce matin. Il a poursuivi ses ennemis. La Bible dit, lorsqu'il a poursuivi ses ennemis, il les a dépassés. Vous savez, il n'y a rien qui soit impossible à quelqu'un qui marche avec Dieu. Rien, rien, rien. La Bible dit, lorsqu'il est entré dans le camp de l'ennemi, il s'est battu avec l'ennemi d'une façon féroce. Toute la nuit, il terrassait ses ennemis. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu dans l'année 2011? Qu'est-ce que tu as perdu au cours des années passées? La stratégie de Dieu est celle-ci aujourd'hui. Si vous vous sanctifiez, si vous purifiez, alors soyez prêts à voir la gloire de Dieu dans votre vie. Si vous purifiez, vous sanctifiez, Dieu vous donne la garantie que personne et rien ne se mettra de vous devant vous comme un obstacle. Le temps de se battre, le temps de vivre dans la défaite, le temps de vivre dans les maladies, le temps de vivre dans la pauvreté, le temps de vivre dans les dépressions, ces temps sont finis dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que je vois devant moi des hommes et des femmes qui sont déterminés à aller avec Dieu, qui sont déterminés à vivre une vie qui plaise, qui honore le Seigneur, qui sont déterminés à récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Non, beaucoup de gens, vous avez marché à gauche, à droite. Vous avez perdu le temps à des endroits où vous ne devrez pas être. Avec les gens avec qui vous ne devez pas être. En faisant des choses que vous ne devrez pas faire. Vous avez perdu le temps. Et l'ennemi vous a volé beaucoup. Il est temps de stopper et de changer de direction. Il est temps de poursuivre votre ennemi. Maintenant, il n'a plus de force pour dire, voilà, il y a quelque chose en toi qui me donne l'autorité légale de te voler. L'ennemi ne doit voir rien dans ta vie pour te voler. Rien. Et lorsqu'il n'y a rien, il n'a pas de choix mais de libérer ce qu'il a volé. Il n'a pas de choix. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque David est entré dans le camp de l'ennemi, il n'avait pas de résistance. L'ennemi n'avait pas de résistance. J'ai pris aujourd'hui que tous tes ennemis qui te poursuivaient, qu'ils puissent perdre des résistances à partir d'aujourd'hui. Que tous les ennemis qui te poursuivaient dans les rêves, dans la nuit, dans la journée, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient incapables de marcher contre toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle puissance. Tu as une nouvelle vie. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. L'ennemi de ta vie, dans l'année 2012, il ne saura plus te toucher. Parce que le feu de Dieu commence à embraser ta vie. Le feu de Dieu commence à contourner ta vie. Les anges seront visibles dans ta vie. Autour de toi. Les anges vont commencer à être réels dans ta vie. Je sens aujourd'hui qu'il y a des gens qui marchaient dans la peur. Des gens qui marchaient dans les inquiétudes. Et le Seigneur me dit, c'est parce que votre vie n'avait pas plu à Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à faire l'expérience des anges autour de toi. Les anges vont commencer à contourner. Il y a quelques jours, nous étions en train de prier dans une maison à Londres. Et lorsque nous étions en train de prier, nous avons vu des anges qui étaient dans les couloirs. Et pendant que les anges remplissaient la place où on était, il y a un garçon de 16 ans dans cette famille qui commençait à jouer avec Dieu, commençait à fumer la cigarette. Et il était dans la maison avec la cigarette dans sa poche. Un ange de Dieu, il est allé dans la peau de ce garçon, il a enlevé la cigarette, il l'a déposée au devant de nous comme ça. Vous parlez de la crainte de l'Éternel. Ce garçon-là, le jour, il a dit, maman, moi je ne toucherai plus jamais cette histoire ici. Vos anges sont plus forts. Parce qu'ils ont pris une cigarette de ma poche et ils l'ont déposée là-bas pour me montrer ce que j'avais. Si vous ne voulez pas vous repentir, l'ange de Dieu va commencer à vous exposer. Mais si vous repentissez pour battre le bon combat, les anges seront à votre service. Je prie que cette grâce soit libérée ce soir. Qu'à partir d'aujourd'hui, que l'année 2012, tu commences à voir des anges autour de toi. Partout où tu vas aller, au travail, tu verras des anges qui sont en train de te protéger. Chaque fois qu'on veut te battre contre toi, les anges vont s'élever pour te battre pour toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu connais ton Dieu. Applaudissez pour Jésus. La Bible dit toute la nuit, David ne faisait que détruire ses ennemis. Toute la nuit, la Bible dit, il a repli. Combien? Il a repli tout. Tout. Il n'y a rien que l'ennemi a gardé dans son camp. Allô? Are you with me? I miss my English. Allô? Vous êtes avec moi?
Amen.
La Bible dit que David, il avait tout repris. Qu'est-ce que cela veut dire tout? Ça dit qu'il n'y a rien qu'il avait perdu qui est resté dans le camp de l'ennemi. Qu'est-ce que tu avais perdu dans le camp de l'ennemi? Est-ce que tu peux commencer à faire la comptabilité aujourd'hui? Tu peux commencer à faire la liste de tout ce que tu avais perdu dans le camp de l'ennemi. La voix prophétique de Dieu déclare que tout ce que tu avais perdu, aussi vrai que Dieu est Dieu, l'année 2012, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Tu vas entrer dans l'année 2012 avec tout ce que l'ennemi t'avait volé. Parce que la puissance de Dieu est en train d'embraser le camp de l'ennemi. Et l'ennemi n'a pas de pouvoir, mais il va libérer ce qu'il a volé de toi. Applaudissez pour Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu dans le camp de l'ennemi? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Les mariages, je déclare que l'ennemi va les libérer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tes finances, je déclare que tes finances deviennent très chaudes pour l'ennemi de les toucher. Il doit les abandonner aujourd'hui parce qu'il n'a pas de choix. Pendant qu'on était en prière, il y a une autre sœur. Pendant le temps de prière, il a vu une vision. Il a vu son frère qui le poursuivait. Il disait, « Faut pas partir. » Viens prendre tes habits que j'avais. Ne pars pas sans tes habits. Là, regardez. Il la poursuivait. Il dit, prends tes habits. Prends tes habits. Et dans les rêves, lui-même l'ennemi, est venu déposer les habits de la serre sur ses pieds. Le lendemain, son frère l'a appelé pour lui dire, désormais, il y a un problème dans la société. Ça, c'est notre Dieu. Tes ennemis vont ramener ceux qui t'ont volé. Amen. Eux-mêmes vont amener ceux qui t'ont volé. Parce que tu es déterminé. Moi, j'ai pris ma décision. L'année 2012, je n'entrais pas sans ce que l'ennemi m'avait volé. J'ai fait déjà la comptabilité. Même les petits riens que j'ai oubliés, je dois prendre ça. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, je vais finir ici parce que je sens l'onction de la récupération qui est en train de bouillonner dans mon sang. Alléluia! Lorsque les enfants d'Égypte ont quitté, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible dit que lorsque Pharaon essayait de négocier avec Moïse, il lui dit, écoutez, bon, je ne veux pas que vous partiez. Et les enfants d'Israël ont mis la pression. Que quelqu'un dise pression. Vous devez mettre la pression sur l'ennemi. Vous devez garder la pression sur l'ennemi. Vous devez garder votre pied sur son cou. Comme ça, fermement, sans bouger. Vous devez faire la pression. Les enfants d'Israël ont fait la pression. Ils disent, non, vous n'allez pas partir. Ils ont fait la pression. Même quand la situation devient difficile, ce n'est pas le temps d'abandonner le combat. C'est le temps de persévérer dans le combat. Parce que l'ennemi ne résiste pas à la pression de l'enfant de Dieu. Tôt ou tard, il va céder. Hallelujah. Glory to God. And so, et les enfants d'Israël ont fait la pression. Puis finalement, Pharaon a dit, ok, vous pouvez partir seulement les hommes. Laissez vos femmes, laissez vos enfants, laissez vos biens. Mais vous les hommes seulement partez. Alors, Hélène avait dit quoi? N'allez pas à la montagne, allez seulement à côté ici. L'ennemi c'est comme ça parfois quand vous faites la pression, il vous donne juste une petite bénédiction. Il dit bon, soyez quand même chrétien, commencez à aller à l'église. Mais ne sois pas trop saint, ok? Ne sois pas compliqué, la vie n'est pas trop compliquée. Quand même, tu peux aller à l'église et de temps en temps, tu bois un petit verre de vin, c'est bon pour l'estomac. C'est bon, de temps en temps, tu peux aller jouer un peu disco le soir là. Mais ne sois pas une vieille modèle, tu vois? Quand même, c'est là que l'ennemi te dit, va un tout petit peu seulement. Tu vas, mais pas très loin. Ne sois pas radical. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de christianité sans radicalité. Ou bien vous êtes radical, ou bien vous n'êtes pas chrétien. Période. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà ce que l'ennemi nous offre. Va, mais pas très loin. Ils ont mis la pression. Puis il leur dit, écoutez, les hommes, allez. Mais laissez les autres. Il a mis la pression pour dire, ok, écoutez, d'accord. Allez avec vos femmes et vos enfants. Mais vous laissez vos bétails. C'est-à-dire que vous laissez votre prospérité. Voilà pourquoi il y a parfois des chrétiens, ils aiment Dieu, tout cela. Mais quand il est en train de se battre avec la pauvreté, il ne sait pas que c'est la volonté de Dieu qu'il quitte l'Égypte avec sa richesse aussi. Alors ils vivent comme ça. Ils n'ont pas laissé. Ils ont mis la pression. Puis il a dit, ok, allez avec vos histoires. Moïse a dit à Pharaon, écoutez-moi Pharaon. Quand nous quittons l'Égypte, nous quittons complètement. Nos femmes, nos enfants, nos bêtes, nos biens, notre intelligence, tout nous quittons. Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, suivez-moi très bien, la Bible dit, ils sont allés même déterrer les os de Joseph. Amen. Même les os de leurs ancêtres qui étaient dans la terre. Ils ont dit, tout ce qui nous appartient, rien ne restera ici. Même les os enterrés, nous les déterrons et nous sortons de l'Égypte pour entrer dans notre destinée. Acclamez pour Jésus. Je prophétise sur votre vie aujourd'hui que tout ce que l'ennemi avait volé dans votre vie, aujourd'hui vous allez les récupérer et vous allez entrer dans l'année 2012 avec tout ce qui vous a volé, sans rien qui doit rester dans les camps de l'ennemi. Vous quittez avec votre sainteté, vous quittez avec votre paix, vous quittez avec votre joie, vous quittez avec votre mariage, vous quittez avec votre prospérité, vous quittez avec votre parfaite santé, parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous fait recouvrir et recouvrir tout à la fois. Applaudissons pour Jésus. La Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelait Job. Il a traversé beaucoup de problèmes. Il a perdu tout. Mais le jour où Dieu lui a permis de récupérer, la Bible nous dit qui lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, today is double double, is double double, is double double, is double double, is double double. C'est le double dans ta vie. Que tout ce que tu as perdu, tu vas le récupérer deux fois plus pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, levez-vous de vos pieds aujourd'hui, nous allons prier. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Élevez vos mains là où vous êtes.